La parole est maintenant à Anne Jefferson, qui est aussi à distance, qui nous parle d'Oxford et dont le sujet porte sur Nathalie Sarraute. Hein. On rappelle sa grande biographie de Nathalie Sarraute qui a été publiée il y a un an. Et son titre sera « Que faire d'autre de sa vie ?» qui est une citation, l'œuvre inachevable de Nathalie Sarraute.
Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. Je regrette seulement de n'y être pas en chair et en os comme on l'avait prévu au départ. Je voudrais commencer par évoquer une fin, celle qu'on trouve notée par Nathalie Sarraute dans son agenda le samedi 2 mars 1985. De la manière la plus succincte, elle enregistre le décès de son mari. Les rendez-vous prévus sont biffés et il reste juste la notation 2h du matin, entourée d'une ligne légèrement tremblante tracée au crayon. Je suis pas assez compétente en matière technologique pour oser vous le montrer, mais si vous avez suivi le cours d'Antoine l'année dernière, il l'avait montré, je crois que c'était dans le premier cours. Raymond Sarraute avait 82 ans, Nathalie Sarraute 84, et ils étaient mariés depuis bientôt 60 ans. Avec la disparition de son conjoint, l'écrivaine perdait non seulement le compagnon de toute une vie, mais aussi une écoute, la seule qui comptait pour son travail. Je reviendrai tout à l'heure à cette question d'écoute. En ce mois de mars 85, elle avait rédigé 70 pages de son 8e roman, « Tu ne t'aimes pas ». Dans les semaines qui suivent la disparition de son mari, elle arrête d'écrire. C'est la première fois que cela lui arrive depuis 50 ans. Mais écrire lui était indispensable. Elle va finir par s'y remettre. Que faire d'autre de sa vie, se demandera-t-elle quelques années plus tard, toujours dans son agenda, dont elle va se servir de plus en plus comme aide-mémoire. « Still hanging on to the old routines », ajoute-t-elle, expression anglaise qu'elle avait dû lire ou entendre quelque part. « S'accrocher encore aux vieilles routines. Que faire d'autre de sa vie ?» C'est la question que s'était également posée Sartre à la fin des mots, quand il disait « J'ai désinvesti, mais je n'ai pas défroqué. J'écris toujours. Que faire d'autre ?» Par la suite, il avait pourtant bien arrêté d'écrire et Nathalie Sarraute s'en est déclarée scandalisée. Écrivant à Monique Wittig en janvier 84, elle raconte l'interview avec Sartre et Simone de Beauvoir qu'elle avait vue à la télévision, où il annonçait qu'il, au pluriel, ne pouvait plus écrire. Et Sartre d'ajouter « D'ailleurs, pourquoi faire ? Car, explique-t-il, ils avaient leur œuvre derrière eux. » Si dans le cas de Sartre, désormais aveugle, cet arrêt pouvait se comprendre, Nathalie Sarraute rapporte ahuri qu'il semble vouloir en faire une règle générale, citant à l'appui Solzhenitsyn qui aurait affirmé qu'à partir de l'âge de 70 ans, on ne peut plus écrire. Sartre avait 73 ans à l'époque de l'émission, mais Nathalie Sarraute, qui en avait 84 quand elle visionne ce qui était sans doute une rediffusion, réagit en disant tout simplement « Cela me stupéfie ». Écrire lui était tout simplement essentiel pour vivre. Ainsi qu'elle le dira à l'âge de 89 ans, ne pas écrire lui serait tout simplement impossible. Ce n'est même pas une souffrance, dit-elle. J'ai l'impression de ne pas vivre, de ne pas exister. C'est comme si je ne respirais pas. On peut toutefois se demander si, dans le cadre du thème de ce colloque, si en prenant de l'âge et en faisant face à une fin de vie incontournable, son écriture va changer de nature. La réponse est à la fois oui et non. Mais de toute façon, il ne sera question chez elle ni exactement de chant de cygne, ni non plus de sénile sublime, pour citer les deux modèles évoqués par Antoine Compagnon dans son cours de l'année dernière. Décédée le 19 octobre 1999, à l'âge de 99 ans, Nathalie Sarraute a vécu plus longtemps que la plupart des autres écrivains français du XXe siècle. Elle avait commencé d'écrire en 1932 et son premier livre, Tropisme, un recueil de 19 textes courts, paraît en 1939, dans la 39e année de l'écrivaine. Son premier roman, Portrait d'un inconnu, voit le jour en 1949, elle a 48 ans, mais ce n'est qu'avec la parution de son petit recueil d'essais, L'ère du soupçon, qui inaugure le nouveau roman en 1956, qu'elle va acquérir une certaine renommée. Cette reconnaissance sera confortée en 1959 par la publication de son troisième roman, Le Planétarium, à la veille des 60 ans de l'auteur. Dire autrice de Nathalie Sarraute me serait plus ou moins impossible, ça la ferait se retourner dans sa tombe. Donc, si je dis auteur, il faut entendre auteur. Bref, les débuts littéraires de Nathalie Sarraute sont lents et sa célébrité plutôt tardive. Si bien qu'on a toujours connu Nathalie Sarraute plus ou moins âgée, jeune d'esprit, certes, mais ayant déjà atteint l'âge de la retraite, sauf qu'elle n'arrête jamais d'écrire et elle ne prendra jamais de retraite. C'est à l'âge de 82 ans, avec la publication d'Enfance en 1983, qu'elle obtient sa plus grande célébrité. Et il serait tentant, sinon cocasse, de suggérer que c'est avec Enfance que commence le grand âge de Nathalie Sarraute. Mais ce serait faux. D'une part parce que, comme le dit Alain Regrier dans sa recension du livre, ce n'est pas l'ouvrage d'une vieille dame qui se range et il était impossible, je cite, de la réduire à n'être qu'une romancière comme les autres en lui refusant sa force novatrice, révolutionnaire qui est la sienne depuis ses premiers courts récits. Cette force novatrice ne se démentira jamais dans les années qui vont suivre, et chaque livre, jusqu'au dernier, va constituer un nouveau départ, une nouvelle relance de son écriture. Cependant, on ne saurait mettre les changements qu'on peut observer dans cette avant-dernière décennie de la vie de l'écrivaine uniquement sur le compte d'un style tardif. Car tout en restant fidèle à sa poursuite des tropismes, elle pratiquait depuis toujours ces changements de cap, se sentant par conséquent aussi démunie que jamais devant chaque nouveau projet, qu'il s'agisse de romans, de textes courts ou bien de théâtre. C'est ainsi qu'elle l'explique dans un entretien de 1981. Il paraît, dit-elle, que les peintres en vieillissant acquièrent de l'expérience, mais pour moi c'est toujours un travail de débutant. Chaque fois devant un texte que je suis en train de commencer, c'est comme si je n'en avais jamais écrit avant. Et la difficulté est exactement la même. À une époque où elle écrivait donc son 12e livre, Enfance, elle se sentait tout aussi néophyte que jamais. Mais néophyte ou pas, elle avait 80 ans, si bien qu'elle avait de bonnes raisons pour songer à la mort. Et en effet, dans un entretien qui date de 1995, quand on lui demande s'il lui arrive de penser à la mort, elle répond en disant « At my age, if you don't think about death, what do you think about ?»« À mon âge, si on ne pense pas à la mort, à quoi pense-t-on ?» En réalité, elle y pensait depuis toujours. Une sœur aînée qu'elle n'avait jamais connue est morte en bas âge et un oncle chéri a disparu dans des circonstances sinistres pendant l'enfance de la future écrivaine. Ces deux morts l'avaient durablement marquée et elle se reconnaissait une angoisse permanente de la mort. La mort, dit-elle dans un entretien, c'est une rupture, un scandale, la destruction, la perte totale. La peur de la mort, poursuit-elle, est tellement forte qu'on ne peut pas l'aborder de front. En face de cette angoisse atroce que donne à chaque être humain la mort, on biaise. On s'occupe de la perte d'un objet, d'un trou derrière la baignoire, c'est dans Portrait d'un inconnu. Mais ce ne sont que des approches, c'est une façon de vivre à moindre frais la chose atroce et invivable. Or, la mort se décline pour elle selon deux modes, chacun aussi angoissant que l'autre. La mort d'autrui et la sienne propre. Ou, ainsi qu'elle explique dans l'un de ses plus beaux entretiens qui date de 82, trois ans avant la mort de Raymond Sarraute, qui était déjà malade, « Le fait d'être mortel, dit-elle, qui cessera de voir ceci, qui cessera de voir cela, et pire encore, qui sait qu'autour de lui les êtres vont disparaître, c'est une chose insupportable. Mort, on perd les vivants, vivants, on perd les morts. Et il s'agit dans les deux cas d'une perte d'un abandon inadmissible. Ce qui est également inadmissible, c'est le sentiment de mort qui peut vous frapper en pleine vie. Par exemple, le sentiment qu'on peut éprouver d'être considéré par autrui comme mort, laissé à l'abandon. Ou comme le dit Nathalie Sarraute au sujet des narrateurs de ses deux premiers romans, ils sont très inquiets parce qu'ils ont l'impression d'être en marge, d'être blâmés par les autres, d'être considérés comme un homme mort. Personne, dit-elle, ne s'occupe de ce genre de choses. Mais si de son vivant, on peut être pris déjà pour un mort, on peut tout aussi bien être mort sans en être conscient. C'est ce qui arrive dans le planétarium où l'un des personnages, Gisèle, se souvient d'une pièce de théâtre où les passagers à bord d'un bateau sont morts en continuant de faire comme si rien n'était, jusqu'au moment où l'un des passagers comprend que, je cite, « ce paquebot sur lequel ils étaient en train de boire et de bavarder était le bateau qui transporte les morts. Ils se croyaient vivants et ils étaient morts. Quelque part au dehors, les gens vivants les avaient regardés, palpés, auscultés, retournés, transportés, et eux ne savaient pas qu'ils étaient morts. » Ce genre de constat est loin d'être le seul dans l'œuvre de Sarraute, et la transformation insidieuse du vivant en son contraire menace également et surtout l'écriture. C'est la découverte que fait Germaine Lemaire, la romancière fictive, toujours du planétarium, en se relisant. Comme c'est inerte, pas un frémissement, nulle part, pas un soupçon de vie, rien, tout est figé, 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 complètement figé, glacé. Pas la moindre vie, c'était une illusion, tout est mort. Mort, 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 un astre mort, la vie est ailleurs. Sans qu'elle s'en aperçoive, sa vision de romancière avait frappé de mort le monde qu'elle évoque dans ses livres. Et cette absence de vie n'est rien moins qu'un abandon total. Elle est seule, lit-on, aucun secours de personne. Si Nathalie Sarraute s'en prend ici à un type de roman réaliste à l'opposé du sien, et si d'ailleurs elle vise Simone de Beauvoir dans le personnage de Germaine Lemaire, il n'en reste pas moins que toute écriture, quelle qu'elle soit, se trouve fatalement menacée de mort. Or, pour reprendre le titre du cinquième roman de Nathalie Sarraute, toute écriture est placée entre la vie et la mort. L'écriture de n'importe quel écrivain, y compris la sienne, peut s'avérer être morte. C'est l'expérience qu'elle raconte dans un épisode où elle évoque l'écrivain en train d'écrire. On suit de façon minutieuse l'expérience du personnage pendant qu'il rédige un premier jet. On le voit ensuite se corriger, ajuster les mots, avant de revenir à son texte pour le relire en se dédoublant. Il a beau croire avoir, je cite, « rarement autant fait de son mieux » et être allé jusqu'au bout de ses forces, le verdict du double est catégorique. C'est mort, pas un souffle de vie. Et le double de préciser que, entre nous, lui et l'écrivain, deux mots suffisent, aussi grossiers que ceux-là, c'est mort, c'est vivant, et c'est mort. Rien ne passe, pas une vibration, c'est mort, bien mort. Ayant reçu ce jugement, l'écrivain se lève d'entre les morts, car tant que le livre n'est pas terminé, les jeux ne sont pas faits, et tout recommence pour en arriver à un moment où, je cite, « le même courant qui traverse les images traverse aussi chaque mot et le fait vibrer ». Pour Nathalie Sarraute, l'écriture vit sur le fil du rasoir, entre la vie et la mort, et tout l'enjeu pour l'écrivaine qu'elle est, c'est de faire en sorte que cette écriture soit vivante et de trouver le moyen de la ramener à la vie si elle s'avère être morte. Et là, je voudrais citer quelques lignes d'une lettre qu'elle écrit à Maurice Blanchot en juillet 63. « Il me semble qu'écrire, c'est jeter et jeter encore sa ligne pour ramener quelque chose qui glisse et se dérobe. Et lorsqu'on l'a hissé, quand c'est là, étalé au grand jour, cela meurt. Et toujours, on recommence. En fin de compte, c'est dans ce mouvement acharné à ramener quelque chose qui est en train de mourir que se concentre la vie. Et on peut dire aussi que se concentre l'écriture. Ce caractère vivant de l'écriture est très souvent désigné chez Sarraute par la présence d'un courant, d'une vibration, d'un souffle, métaphore qu'on trouve dans les deux passages d'Entre la vie et la mort que je viens de citer, et qui reviennent fréquemment sous sa plume pour traduire les valeurs littéraires qui lui sont essentielles. S'y rajoute aussi la pulsion, la coulée, le mouvement, le tremblement, autant de vocables qui figurent dans le même épisode avec l'écrivain et qui font partie du champ sémantique associé à l'écriture. On a donc chez Sarraute une préoccupation intense et récurrente avec la mort d'un côté et de l'autre, une préoccupation tout aussi intense, tout aussi constante, avec le vivant de l'écriture. Les deux sont intimement liés, surtout me semble-t-il dans la dernière partie de son œuvre. Et l'hypothèse que je voudrais avancer ici, c'est que, avec l'âge et l'approche de la mort, elle a eu recours à des stratégies. Et le mot « stratégie » convient sans doute mieux que celui de « style ». Recours à des stratégies donc qui lui permettent, dans la mesure du possible, d'assurer la vie de l'écriture. Vie à laquelle se rattache bien sûr la sienne propre. Scheherazade de la modernité, la vie de l'écrivaine, pour qui ne pas écrire, c'est comme ne pas exister, ne pas respirer, va dépendre moins de sa capacité à inventer des histoires que de sa capacité à assurer le caractère vivant de son propre langage, de lui insuffler la vie, bref, de le faire respirer. Et l'autre qui va en décider, ce n'est plus le sultan, mais l'alter ego de l'écrivaine, son double, celui qui avait toujours été pour elle, Raymond Sarraute, à qui il suffisait que l'écrivaine lise son texte pour qu'elle sache tout de suite ce qui allait ou n'allait pas. En lui faisant écouter le travail en cours, dit-elle, je l'entendais autrement, écouté par une double oreille, la sienne s'ajoutait à la mienne. Si dans le parcours de Nathalie Sarraute, il y a un moment où ses stratégies tardives commencent à s'imposer, ce n'est pas dans l'enfance, mais dans le livre précédent, L'usage de la parole. Recueil d'une dizaine de textes qui paraît en 80, quand l'écrivaine entame sa 80e année. Il y a plusieurs raisons de voir dans ce texte un changement de cap où l'on peut repérer des stratégies d'écriture particulièrement caractéristiques des œuvres qui vont suivre. Pour commencer, on peut citer le recours au texte court. À l'exception de « Tu ne t'aimes pas », chaque livre, y compris « Enfance », consistera désormais en un recueil de textes courts plutôt qu'en une écriture continue. On retiendra ensuite les allures de plus en plus vocales que prend cette écriture pour faire entendre des voix. L'importance accordée à la parole va par ailleurs servir de tremplin pour chaque texte de cette période qu'on peut qualifier de tardive, à commencer par le premier des 10 textes de l'usage de la parole. Intitulé « Ich sterbe », ce premier texte raconte les derniers moments de l'écrivain russe Tchekhov, et c'est l'un des plus beaux morceaux que Sarraute ait jamais écrit. Placé très littéralement entre la vie et la mort, ce sont les paroles d'un mourant qui servent de point de mire du texte. L'énoncé « Ich sterbe » revient 14 fois pour ponctuer le texte. Et ce qui intéresse l'écrivaine, c'est l'effet produit par ces paroles, les remous, les ondulations, la palpitation, la peine perceptible, frémissement qu'elle déclenche. C'est sous ces formes, remous, ondulations, palpitations, frémissements, que se manifeste le rythme qui va occuper chez elle une place toujours plus importante dans les œuvres tardives. Car le rythme est à ses yeux l'un des moyens les plus indispensables pour faire vivre l'écriture. C'est notamment sur la base de ces deux phénomènes, le rythme et la vocalité, que l'usage de la parole me semble constituer une charnière dans le parcours de Sarraute et qu'il inaugure les stratégies d'écriture qui vont marquer le dernier tiers de sa carrière. Le rythme a pourtant toujours été important pour Nathalie Sarraute, ainsi qu'elle l'affirme dans plusieurs entretiens. Elle explique par exemple que pour écrire, il lui était d'abord indispensable de trouver un rythme général pour le livre entier, et puis ensuite d'en trouver un pour chaque chapitre, chaque page, chaque phrase. Mais ce rythme, véhiculé très souvent par la voix, n'a rien de formel ni de régulier. Il s'agit au contraire, dira-t-elle, d'éviter le langage écrit, terriblement figé, de garder un rythme haletant, rapide. Le caractère haletant du rythme sarrautien est relié notamment à la respiration. Expérience corporelle dont Nathalie Sarraute avait une conscience particulièrement aiguë, due à son expérience de la tuberculose, dont elle a été atteinte 2 fois dans sa vie et en 58, elle en a même failli mourir. La précarité du rythme dans ces textes tardifs se manifeste aussi dans l'usage plus fréquent de blanc pour séparer les paragraphes sur la page. Usage plus fréquent, mais aucunement systématique, non seulement par le fait qu'il y a des pages avec très peu d'exemples de ce genre d'espacement, mais aussi par la variation des dimensions de ces blancs. J'aurais aimé vous montrer deux pages du texte, le mot « amour », mais je ne maîtrise pas suffisamment bien la technologie, donc vous devez me faire confiance quand je vous dis que il y a un exemple de l'usage, de l'emploi des points de suspension toutes les deux lignes. Donc vous voyez à quel point ils deviennent fréquents. Non, je me trompe. C'était l'espacement. Je voulais vous montrer ces deux pages pour vous montrer que il y avait, les paragraphes étaient espacés par des blancs de dimensions différentes. Ces espacements servent à rythmer le texte et aussi à indiquer des pauses où il peut, pour ainsi dire, se permettre de souffler un instant avant de se relancer. Le rythme et la respiration se font aussi, et là, c'est ici que je parle des points de suspension, le rythme et la respiration se font aussi sentir dans les points de suspension qui émaillent l'écriture de Sarraute, surtout à partir du planétarium. Dans un entretien, elle reconnaît « j'aimerais bien mon passé, mais les points de suspension me sont absolument nécessaires. Ils donnent à mes phrases un certain rythme. Grâce à eux, elles respirent. Et aussi, ils leur donnent cet aspect tâtonnant, hésitant, comme cherchant à saisir quelque chose qui à tout moment s'échappe, glisse, revient. Et cet aspect haché. Haché, haletant, tâtonnant, palpitant, frémissant, tremblant, toujours sur le point de défaillir, le rythme sarrautien n'a rien d'assuré. Mais c'est de là précisément qui tient son caractère vivant, placé comme le reste entre la vie et la mort. Le rythme chez Nathalie Sarraute revêt des formes différentes, mais il est indissociable de la voix. Écrire suppose s'écouter, ainsi que l'indique déjà la scène d'entre la vie et la mort que j'ai évoquée à l'instant, et c'est l'écoute qui va révéler pour l'écrivaine la présence indispensable d'un rythme. « Quand j'écris, explique-t-elle, j'entends les mots » et je lis en les prononçant, en entendant chaque mot. Je ne lis pas seulement avec les yeux. En écrivant, j'entends les rythmes, je les écoute, je relis, je modifie. C'est ainsi que la voix s'impose progressivement dans l'œuvre de Nathalie Sarraute. Le titre de l'usage de la parole le dit déjà assez. Et chacun des 10 textes dont le livre est composé tourne autour d'une parole, d'un énoncé. « Ich sterbe »,« à très bientôt », »,« et pourquoi pas », etc. Avec pour la première fois un narrateur qui s'adresse directement au lecteur. Ensuite, « enfant » s'est construit également à partir des paroles qui avaient marqué l'enfant. « Nein, das tust du nicht », l'allemand de nouveau. Aussi liquide qu'une soupe, elle est plus belle que maman, ce n'est pas ta maison, etc. Et la narration est assurée par un dialogue entre le narrateur, toujours un masculin d'ailleurs, et son double. Tu ne t'aimes pas, dont le titre, comme d'autres chez Sarraute, est déjà un énoncé, consiste de bout en bout en dialogue. Les 20 textes qui composent le livre suivant, ici, prennent des mots ou des énoncés pour tremplin. Les noms et les mots qui vous échappent, ou bien des déclarations qui tombent, je cite, comme l'énorme rafale de vent d'un cyclone. Ouvrez, le dernier texte publié du vivant de l'auteur, revient à la forme du dialogue où, et c'est là encore une fois une innovation, les personnages sont eux-mêmes des mots, mais des mots qui parlent. Cette vocalisation intensifiée de l'écriture s'accompagne de la part de Nathalie Sarraute d'un recours à des enregistrements de ses textes. Dans son grand âge, elle avait la voix très belle et il ne restait plus de traces de ce débit saccadé caractéristique des années 50. Plusieurs écrivains l'avaient. Simone de Beauvoir peut-être... On a gardé l'usage le plus visible. Nathalie Sarraute avait déjà commencé de proposer des lectures d'extraits de son œuvre à la place des conférences dans les tournées qu'elle continuait de faire à l'étranger. Et à partir des années 80, Elle enregistre plusieurs de ses textes aux éditions des Femmes, qui inaugurent une collection d'audio-livres qui va comprendre « Tropisme entre la vie et la mort, l'usage de la parole, tu ne t'aimes pas, ici et ouvré ». Les fruits d'or et enfants seront enregistrés chez d'autres éditeurs. Il s'agit pour Nathalie Sao de faire partager une écoute, celle qu'elle avait perdue avec la mort de Raymond Sarraut, et de faire en sorte que ses lecteurs entendent ses textes de la manière qu'elle, l'auteur, l'entendait en les écrivant. Car, dit-elle, quand j'écris, je ne peux pas me fier au lecteur pour le rythme. Il faut que le texte respire comme quand je l'entends. Par ailleurs, on entend bien la respiration de Sarraut dans plusieurs de ses enregistrements. Elle va même jusqu'à avouer avoir l'impression que personne d'autre qu'elle, je cite, ne peut lire ses textes parce que personne ne peut retrouver ça. Voix, écoute, rythme, respiration, c'est grâce à ce nœud d'éléments que le texte va pouvoir vivre. Le rythme et la respiration sont à la fois des répétitions et des recommencements. Et c'est des recommencements à répétition qu'on peut voir à l'œuvre dans le choix du format de texte court dans les derniers livres de Sarraut. Parsemés de blancs qui séparent les bouts d'écriture dont ils sont composés, chacun de ces textes courts constitue une nouvelle relance d'écriture. Ce qui change aussi, c'est la méthode de composition employée par l'écrivaine. Au lieu de rédiger un premier jet du livre entier avant de le corriger, ainsi qu'elle le faisait auparavant, elle les corrige désormais au fur et à mesure, ou comme elle l'explique dans un entretien de 1995, quand j'ai estimé que je devenais trop âgée, j'ai commencé à travailler page par page. Je n'ai plus osé écrire jusqu'au bout quelque chose d'informe. Cette méthode de composition a par ailleurs l'avantage de lui permettre également de déjouer la mort, dans la mesure où, si jamais elle disparaissait avant d'avoir terminé un recueil, il y aurait toutefois de quoi constituer un volume posthume plus court. Mais ces recommencements à répétition lui ont servi d'une autre manière. La parution en 1996 des œuvres complètes dans la Pléiade avait l'inconvénient de suggérer que son œuvre était désormais derrière elle, comme l'avait dit Sartre de la sienne, qu'elle était achevée et qu'à l'avenir, l'écrivaine aurait une vie sans écriture. Or, pour Nathalie Sarraut, cela était strictement inconcevable, si bien que, à deux reprises, en continuant d'écrire, elle a trouvé le moyen de faire en sorte que les œuvres complètes ne le soient pas. L'inévitable retard qu'a pris la préparation des œuvres complètes a permis toutefois qu'à la dernière minute, le recueil d'ici, publié en 1995 dans la collection Blanche chez Gallimard, ait pu intégrer la Pléiade. Mais interrogée la même année au sujet de la possibilité d'un autre livre, Nathalie Sarraut répond en disant « Ah, mais je n'ai pas encore fini. Vous savez, le temps commence à être court. » Et en effet, elle va encore rédiger « Ouvrez » qui sera publié en 1997. La stratégie de recommencement assure la non-complétude d'une œuvre qui risquait sinon de servir de pierre tombale à son auteur. Et Nathalie Sarraut continue toujours d'écrire. Que faire d'autre de sa vie? Ainsi qu'elle se le demande dans son agenda d'avril 1999. Elle avait toujours aimé citer une expression qu'elle attribuait à Picasso qui aurait dit de son travail « L'achevé, c'est l'achevé », déclaration dans laquelle l'écrivaine voyait une injonction contre la finition, l'achèvement. Pour elle, rien dans son œuvre ne devrait prendre fin, que ce soit au niveau du corpus entier, d'un livre individuel ou même d'une phrase. Et pour ces phrases, ce sont les fameux points de suspension au moyen desquels elle revendique ce qu'elle appelle la liberté de ne pas achever. L'essentiel étant de ne pas achever, elle continue d'écrire après la publication d'Ouvray en 97. D'après ce qu'elle racontait aux amis et aux visiteurs qu'elle recevait, il s'agissait d'une pièce de théâtre, ce qui représente un nouveau changement de cap puisque la pièce précédente datait déjà de 82. Elle en a parlé avec Jacques Lassalle qui avait monté une représentation de Pour un oui ou pour un non en 98. Et elle lui a promis de lire le début de ce nouveau texte. « Revenez vite », lui aurait-elle dit, « je vous lirai le début du texte ». Or, en l'occurrence, l'occasion ne s'est jamais présentée. Nathalie Sarraute tombe gravement malade. Elle va mourir le 19 octobre. Depuis, on ne sait rien de ce dernier manuscrit qui semble tout simplement s'être volatilisé. Mais l'existence de cette œuvre disparue, quelle qu'elle soit, est la meilleure indication imaginable de l'inachèvement revendiqué par l'écrivaine. Et j'avoue que, pour ma part, je préférerais que ce texte reste bel et bien perdu. Manquant d'existence concrète, matérielle, il nous empêche de mettre fin de mettre un point final à l'œuvre de Nathalie Sarraute. Pour conclure, parce qu'il faut que moi j'arrête, les œuvres tardives de Nathalie Sarraute se distinguent par l'inlassable effort dont elles font preuve pour repousser, voire pour refuser catégoriquement une fin. En cela, l'écriture des deux dernières décennies de sa carrière répond que, mieux que tout autre, à la finalité que l'écrivaine attribuait à la littérature, c'est-à-dire de la faire vivre. Et c'est avec une citation d'un bel entretien avec Françoise Asseau que je vais terminer, Nathalie Sarraute dit « Ce qui compte, c'est la vie enfermée dans les livres, qu'il s'agisse des classiques ou des modernes, et qui donne envie d'écrire. Cela ne m'aide pas à trouver une forme, mais à vivre plus intensément. Chaque écrivain apporte quelque chose de vivant qui vient intensifier la vie du lecteur. » Merci.